Douglas.
Ireland. Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Quin plaer, quin gustàs, que és cantar en català.
Bonjour à tous. La tension reste vive en Catalogne, une semaine après le référendum d'autodétermination qui a donné 90% des suffrages en faveur de l'indépendance, avec un taux de participation, il est vrai, de 42%. Entre les actions musclées de la police espagnole dimanche dernier, l'arrestation du chef de la police catalane et de dirigeants séparatistes, la situation s'est considérablement tendue en quelques jours. Si la radicalisation du mouvement séparatiste s'est accélérée ces dernières semaines, le mouvement indépendantiste était jusqu'alors minoritaire. C'est ce qu'a d'abord rappelé le journaliste français Henri de Laguérie dans son ouvrage « Les Catalans » au cours de cet entretien accordé à Frédéric Lebel.
Jusque dans les années 2010-2012, c'est vrai que c'était 15-20% d'indépendantistes historiques. C'était un indépendantisme qui était principalement identitaire et qui avait une revendication sur la langue, sur la culture. Et à partir du moment où le nouveau statut d'autonomie, les statutes, qui était un texte finalement de compromis entre Barcelone et Madrid, voté à Barcelone puis à Madrid en 2006, eh bien en 2010, il est finalement suspendu par la Cour constitutionnelle. Et c'est à ce moment-là qu'il y a énormément de gens qui croyaient en une entente possible entre la Catalogne et l'Espagne, qui ont basculé et qui sont devenus indépendantistes. Et c'est pour ça qu'on est passé de 15-20% à 40-45%, 50%, les chiffres divergent. Mais pour faire vite, il y a une moitié de la Catalogne qui est indépendantiste aujourd'hui.
Oui, et c'est un mouvement citoyen avant d'être un mouvement politique.
Oui, effectivement, et c'est d'ailleurs ce que n'a jamais réussi à comprendre Madrid, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on en est arrivé là. Madrid a toujours cru que c'était la classe dirigeante, et notamment les dirigeants nationalistes qui s'étaient tournés vers l'indépendantisme, qui manipulaient finalement la foule. Or c'est plutôt l'inverse, c'est la pression de la rue qui les ont un peu obligés à prendre la tête de ce mouvement indépendantiste. Les indépendantistes qui sont organisés avec cette puissante association qui s'appelle l'Assemblée Nationale de Catalogne, qui aujourd'hui dirige en quelque sorte la Catalogne. Et ce sont eux qui ont organisé ces immenses manifestations qu'on voit chaque année depuis déjà 5-6 ans et qui maîtrisent finalement le tempo et qui vraiment dirigent la région.
Oui, parce que politiquement, l'indépendantisme est assez éclaté entre différents partis politiques aux sources idéologiques très différentes.
Ah oui, effectivement, ça va du centre-droit, voire la droite d'ailleurs, Convergencia y Unió, qui est aujourd'hui devenu le PD4, on appelle ça comme ça, mais c'est, pour faire vite, les chrétiens démocrates, assez conservateurs, libéraux d'un point de vue économique et plutôt conservateurs sur les questions de société, sont indépendantistes et ils sont alliés avec Esquerra Republicana, qui est la gauche indépendantiste, on pourrait dire en France un parti socialiste indépendantiste, et surtout ils ont un dernier allié qui est très étonnant, c'est la CUP, c'est un parti. Le parti sans doute le plus à gauche qu'on peut trouver en Europe, qui a une représentation dans un parlement. C'est un parti qui est hostile à l'Europe, qui est hostile à l'euro, qui se déclare anticapitaliste et qui est clairement un parti révolutionnaire. Et ce petit parti a un poids très important ici parce qu'ils n'ont que 10 députés. Mais sans ces 10 députés au Parlement catalan qui en compte 130, eh bien les indépendantistes n'ont pas la majorité. C'est pour ça aussi qu'il y a eu une radicalisation ces derniers temps du mouvement indépendantiste. C'est par l'influence de ce petit groupe, la CUP, qui est vraiment oblige les partis un peu plus classiques, on va dire, à aller vers l'indépendance, mais de manière un peu rapide avec, pourquoi pas, cette déclaration unilatérale d'indépendance pour les prochains jours.
Et si on compare l'Espagne avec un pays extrêmement centralisé comme la France, on peut se dire que les régions espagnoles disposent d'énormément d'autonomie. Par exemple, en Catalogne, la région gère son éducation, sa santé, elle a même sa propre police. Mais dans votre livre, un politologue dénonce le centralisme imposé par Madrid. Comment comprendre ça?
C'est vrai qu'il y a eu une déconcentration du pouvoir avec beaucoup de pouvoir pour les régions, mais ça s'est toujours fait à contre-cœur. Et Madrid, finalement, a du mal à accepter d'avoir laissé beaucoup de souveraineté aux régions. Et donc, finalement, ils veulent toujours avoir le dernier mot. C'est une déconcentration un peu compliquée parce que les régions ont beaucoup de pouvoir, sauf que l'argent est géré par Madrid. Donc, on a des compétences, mais on n'a pas l'argent qui va avec. Donc, finalement, on n'a pas un système centralisé comme en France qui, bon an mal an, fonctionne bien, à sa logique, mais on n'a pas non plus un système fédéral comme en Allemagne. On a une espèce de mélange des deux qui ne satisfait absolument personne, avec des doublons d'administration. On a toujours à chaque fois deux administrations. On ne sait jamais qui a vraiment les compétences sur quoi. Et surtout, il y a parfois un manque de respect sur les compétences de chacun. Donc ça crée énormément de difficultés. Et puis c'est vrai qu'en sortant de la dictature espagnole, on a mis en place ce système des communautés autonomes et de ces régions. Mais au départ, ce système était prévu pour les régions historiques, pour la Galice, le Pays Basque ou la Catalogne. Sauf que d'autres régions, eh bien, on dit non, il est hors de question, on veut avoir la même chose. C'est ce qu'on a appelé ici le café para todos, le café pour tout le monde. Ce qui fait qu'il y a toujours des rivalités entre les régions parce qu'on regarde à la loupe les dépenses de chacun et qui a plus, qui a moins, ce qui crée un système un petit peu pervers.
Alors justement, est-ce que la question de l'économie, des finances est centrale dans cette revendication indépendantiste ?
C'est l'un des deux, trois piliers très importants. En plus de la langue, de la culture et de cette revendication sur une reconnaissance de la nation catalane, il y a cet aspect économique. Il y a une part d'égoïsme, évidemment, il faut le dire, comme dans la plupart des nationalismes régionaux en Europe, avec ce sentiment de payer beaucoup trop d'impôts pour ce qu'on reçoit en retour, ce sentiment d'envoyer beaucoup d'argent, notamment pour les régions du sud de l'Espagne, l'Andalousie, qui reçoit, c'est vrai, beaucoup d'argent public, mais qui, économiquement parlant, n'arrive pas à sortir de la nasse avec des taux de chômage absolument extraordinaires en Andalousie de 25 à 30%. Et puis, il y a aussi surtout l'impression que cet argent est très mal utilisé. Il y a eu des choix économiques et des choix d'infrastructures qui ont été faits par Madrid qui manquent parfois de cohérence. Il faut bien savoir qu'il y a eu des lignes de TGV entre des villes où il n'y a pas beaucoup d'habitants avant la ligne TGV entre Barcelone et Madrid, qui est la ligne de TGV absolument essentielle pour le pays.
Aujourd'hui, les indépendantistes menacent de faire une déclaration unilatérale d'indépendance dans les prochains jours. La question, c'est que va-t-on faire de tous ces Catalans qui ne sont pas indépendantistes ?
Effectivement, il y a la moitié de la Catalogne qui n'est pas indépendantiste. Le problème, c'est que ces gens-là ne manifestent jamais, ne sont pas organisés, tout simplement parce que les intérêts sont tout à fait divers. Quand il y a les rares manifestations qui regroupent les anti-indépendances, c'est souvent des gens à la droite de la droite, et donc personne n'a envie de manifester avec ces gens-là. Et aujourd'hui, il est très difficile, lorsqu'on est catalan, de dire publiquement « ben non, moi je ne suis pas convaincu par l'indépendance, et ça ne fait pas de moi un fasciste ». Il y a une tristesse de plus en plus importante chez ces non-indépendantistes qui ont le sentiment de devoir choisir entre l'Espagne et la Catalogne, et surtout qui finissent par renoncer à s'exprimer parce qu'il y a beaucoup de dîners qui terminent mal, il y a des fêtes qui terminent mal, des amitiés qui se brisent, beaucoup d'agressivité sur les réseaux sociaux. Et cette question, au-delà de l'aspect légal, est-ce qu'on peut faire l'indépendance d'un pays lorsqu'on a la moitié des gens qui ne sont pas convaincus par ce projet ? C'est extrêmement difficile. Dans la plupart des cas d'indépendance, il y avait une adhésion beaucoup plus importante à ce projet d'indépendance que cette adhésion qu'on trouve actuellement en Catalogne.
Au micro de Frédéric Lebel, Henri de Laguéry, qui signe Les Catalans aux ateliers Henri Dougier. En juin dernier, une mosquée d'un nouveau genre a ouvert ses portes dans la capitale allemande. Elle accepte tous les courants religieux de l'islam et les homosexuels y sont explicitement les bienvenus. À l'origine de cette initiative, Seyran Ates, une avocate germano-turque et activiste du droit des femmes. Déborah Berlioz l'a rencontrée à Berlin.
Il est 13h, l'heure de l'appel à la prière du vendredi dans la mosquée Ibn Rushd Goethe. Dans une petite salle à la moquette claire et soyeuse, hommes et femmes s'inclinent côte à côte. Certaines femmes sont voilées, d'autres non. Une scène qu'on ne verra jamais dans une mosquée traditionnelle. Mais Seyran Ates, la fondatrice de cette mosquée, ne le concevait pas autrement.
Pour moi, c'est très important car cette séparation des sexes a de très fortes répercussions sur la société et sur les relations entre les hommes et les femmes. C'est pour ça que c'est important que les hommes et les femmes soient ensemble dans la mosquée et disent « Nous sommes égaux devant Dieu et nous avons les mêmes droits dans la société ».
Cette activiste de 54 ans s'occupe depuis longtemps des questions religieuses. Entre 2006 et 2009, elle a même participé à la conférence sur l'islam. C'est un rendez-vous de débat entre la communauté musulmane et l'État allemand. C'est là que l'idée de fonder une mosquée a germé dans sa tête.
Monsieur Schäuble, ministre de l'Intérieur à l'époque, m'a demandé « Mais où sont les musulmans modérés, libéraux, qui vivent un islam moderne ? On ne les voit pas, la majorité silencieuse. Est-ce qu'ils existent vraiment ? Et Madame Ates, combien de gens pensent vraiment comme vous ?»
Frohes
neues Jahr. Das habe ich bislang
Mohamed fait partie de cette majorité silencieuse. Égyptien d'origine, il est venu en Allemagne il y a 30 ans pour faire des études d'architecture. Marié à une berlinoise chrétienne, il n'en reste pas moins un musulman convaincu.
Je suis allé dans beaucoup de mosquées dans ma vie, mais j'avais du mal à m'y sentir à ma place. Dans beaucoup de mosquées berlinoises, on parle le turc, une langue que je ne comprends pas, ou alors l'arabe. Dans les mosquées arabes, je comprends ce qui se dit, mais elles sont souvent très conservatrices, voire salafistes.
Sie sind mehr konservativ oder eher salafistisch.
À Berlin, de nombreuses salles de prière sont directement gérées par le ministère du culte d'Istanbul. La Turquie dépêche des imams qui ne parlent pas souvent l'allemand. Mohamed n'avait donc pas prié dans une mosquée depuis plus de 2 ans avant l'ouverture de ce nouveau lieu. Maintenant, il vient tous les vendredis. Parmi les fidèles, on compte également beaucoup d'Allemands convertis, comme Christian. Ouvertement homosexuel, il s'est tourné vers l'islam en découvrant cette nouvelle mosquée.
Je ne dirais pas que c'est inhabituel que des homosexuels aillent à la mosquée, juste qu'ils n'y vont pas avec des t-shirts arc-en-ciel. Mais évidemment, il y a dans le monde et à Berlin des positionnements d'imams qui disent que ce n'est pas bien et qui essaient de le justifier par les textes.
Le rôle de la nouvelle mosquée est de montrer une autre lecture des Écritures saintes. Les prêches ne sont d'ailleurs pas forcément assurées par des imams, ce n'est pas une obligation dans l'islam. Le plus souvent, ce sont les fidèles qui le font à tour de rôle. Cette approche progressiste attire beaucoup de visiteurs non musulmans. Aujourd'hui, 10 de personnes sont venues regarder la prière. Des auditeurs libres qui ne seraient pas les bienvenus dans une mosquée traditionnelle. Mais pour Christiane, les accueillir est important.
Les visiteurs favorisent le lien entre les gens. Nous ne pouvons pas être dans le dialogue, et surtout dans le dialogue interreligieux, si nous ne rencontrons pas les gens.
Allahu Akbar. Les fidèles sont toutefois encore peu nombreux. Moins de 20 personnes participent à la prière ce vendredi. Mohamed n'a pas réussi à convaincre ses amis musulmans de l'accompagner.
Les plus conservateurs refusent complètement l'idée. Ils disent que cela n'appartient pas à l'islam et que ce n'est pas une mosquée. Les plus libéraux trouvent l'idée géniale, mais ils ont peur de venir ici.
Il faut dire que l'ouverture de la mosquée a déclenché une vague de protestations parmi les musulmans conservateurs. La boîte mail de Serhanates a été inondée de menaces. Mais l'activiste a l'habitude. En 1984, elle a déjà échappé à une tentative de meurtre et elle vit depuis sous protection policière. Pourtant, elle ne regrette rien.
Pour moi, la liberté, c'est de pouvoir exprimer mon avis grâce à la protection de l'État. Dans un autre pays, comme dans mon autre patrie, la Turquie, je pourrais être enfermée pour ça, comme le journaliste Denis Yücel qui est en prison.
Heureusement, les soutiens positifs sont aussi nombreux. Pour l'instant, la jeune mosquée est hébergée dans les locaux d'une paroisse évangélique et se finance grâce à des dons privés. Mais Serhanates espère qu'elle aura son propre bâtiment d'ici 10 ans. Par ailleurs, l'énergique quinquagénaire compte suivre une formation d'imam dès l'année prochaine.
En Hongrie, c'est un défi politique que relève Bernadette Cel. Coprésidente d'un petit parti d'opposition, elle a tout simplement décidé de se présenter contre l'omnipotent Viktor Orban aux prochaines législatives dans 6 mois. Défi de taille quand on sait que l'actuel Premier ministre est crédité actuellement de 36% des voix, Florence Labruyère.
De l'énergie, elle en a à revendre. Grande brune et lancée, Bernadette Cel a fêté ses 40 ans cette année. Depuis la banlieue, où elle habite avec son mari et ses 2 filles, elle vient souvent au Parlement en vélo. Cette économiste de formation est une écologiste convaincue. Elle a beaucoup critiqué le contrat signé par Viktor Orban avec Moscou. Un contrat classé secret pendant 30 ans et qui confie à la Russie l'agrandissement de la centrale nucléaire hongroise. La Hongrie n'a pas besoin du nucléaire et ferait mieux de créer des emplois dans les énergies renouvelables, dit Bernadette Cel. Au Parlement, il lui est arrivé de lancer des discours tellement enflammés contre la corruption du clan au pouvoir que le président de l'Assemblée a coupé son micro et l'a menacé d'une amende. « Vous pouvez m'enlever tout mon salaire, je ne me tairai pas », a crié la députée, qu'on a très bien entendu sans micro. Elle veut que son parti fasse cavalier seul aux prochaines élections. Pourtant, tous les calculs le disent, seule une alliance de tous les partis d'opposition pourrait battre le gouvernement actuel. Et pour l'instant, le parti écologiste n'atteint même pas 10% des intentions de vote. Mais Bernadette Cel veut croire au miracle. Son modèle, c'est Emmanuel Macron, l'outsider qu'on n'attendait pas. La candidature de cette quadragénaire au poste de Premier ministre est en tout cas une première dans un pays où la politique reste une affaire d'hommes. En Hongrie, il n'y a que 10% de femmes au Parlement, un pourcentage très faible comparable à des pays comme l'Iran ou la République démocratique du Congo.
Gardez vos yeux fermés et écoutez.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Laurent.
Vos auditeurs fidèles ne seront pas surpris de retrouver une habituée de l'émission.
Et oui, c'est même probablement la détentrice du record de passage dans Accent d'Europe depuis 9 ans. Et pour cause, la Norvégienne Anne Brun est une véritable staccanoviste pop et a enregistré une bonne douzaine d'albums depuis le début des années 2000 quand elle s'installe à Stockholm. Y fonde son propre label et s'inscrit assez naturellement dans l'effervescence de la scène suédoise de l'époque. Bien des choses se sont passées depuis pour Anne Brun, des collaborations, des tournées, et puis ses albums où la compositrice a plié sa voix sublime à des ambiances et des genres très différents. Cet automne, elle s'attaque à un exercice où beaucoup ont échoué avant elle, l'album de reprise sur Leave Me Breathless. Elle s'amuse à mélanger les classiques folk de Bob Dylan ou Joni Mitchell à des C-pop signés Foreigner ou Mariah Carey. Mais le titre que je vous propose, c'est une belle reprise d'une chanson de Tom Petty en guise d'hommage au chanteur américain disparu en début de semaine. No Reason to Cry.
All I'm wanting is to see you and to hold you once again. See the sun color your hair. See the tall grass blowing in the wind. Overcome me, bitter sweetness. Put me under a magic spell. Overcome me, all my sadness. Lead me on and wish me well. There's no reason to cry. There's no reason to cry. There's no reason to cry. It's all right. Overtake me, my sweet lover. Let me kiss your honey lips. Could be the only thing that's real. Could be when you get sad, your memory slips. There's no reason to cry. There's no reason to cry. There's no reason to cry. It's all right.
No Reason to Cry, extrait du dernier album de Anne Brun. Et la semaine prochaine, Vincent, nous partirons sur les traces du Dahu.
Oui, en quelque sorte, on fêtera les 25 ans de ce groupe belge culte Dahu.
Et toute cette semaine, c'est Françoise Grelot qui a réalisé la mise en onde de cette émission. Accent d'Europe à retrouver sur RFI.fr à la page émission. À lundi.